Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les lectures bibliques de ce dimanche, alors que nous sommes encore tout éblouis par la lumière de la Nativité, nous donnent d'approfondir l'essentiel de l'activité du chrétien au cours de ses journées et tout au long de sa vie, à savoir l'exercice concret et répété de la foi et de la charité. La foi, tout d'abord, c'est le désir d'être guéri, d'être purifié, et donc de pouvoir réintégrer la communauté des hommes qui pousse le lépreux à s'approcher avec confiance de Jésus. C'est un premier élément très important de la foi. Nous nous approchons de notre Seigneur parce que nous avons confiance en sa puissance, en sa bonté, en son pardon. Nous savons qu'il peut nous guérir, qu'il a la puissance de nous purifier, de nous remettre debout et de nous réintroduire dans la communauté des vivants. La foi du centurion romain est encore plus explicite. Certes, lui aussi, il fait totalement confiance au Christ, mais surtout, il reconnaît qui est Jésus. Non pas seulement un prophète, non pas seulement un thaumaturge, mais il affirme que la puissance du Sauveur, celle qui lui donne de pratiquer des miracles, de parler avec autorité et de pardonner les péchés, ne vient pas de lui-même, c'est-à-dire de son humanité laissée à ses propres forces, mais bien de celui qui l'a envoyé. La petite parabole qu'il emploie montre bien qu'il a conscience que Jésus est envoyé par un autre, qu'il accomplit une mission venue d'en haut. Autrement dit, il a foi en la messianité de Jésus, en proclamant que c'est lui le Sauveur envoyé par Dieu pour sauver son peuple. Et il affirme aussi la filiation divine. Le Père éternel n'a pas fait qu'envoyer un libérateur, un grand roi, un chef, un pasteur, un prophète, selon ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Non, il a envoyé son propre Fils, celui qui partage éternellement sa gloire et qui est un avec lui. Dieu, tout à la fois, accomplit et surpasse sa promesse. Il réalise ce qui a été annoncé d'une manière à la fois parfaite et inattendue, c'est-à-dire au-delà de tout ce que l'homme pouvait bien espérer. Autrement dit, Dieu va au-delà de nos désirs, de nos attentes, de nos besoins. Parce que nos désirs, nos attentes et nos besoins sont comme limités par notre nature et par nos capacités psychologiques. Non, Dieu va bien au-delà de tout ce que nous pouvions penser, espérer ou même imaginer. Voilà pourquoi nous devons aussi faire un acte de foi en cette puissance de Dieu surnaturelle qui se déploie à travers et dans nos pauvres existences humaines. Dieu accomplit tout cela et il le porte à une dimension proprement insoupçonnable à notre nature humaine, à notre intelligence laissée à ses propres forces. Et voilà pourquoi nous ne devons jamais limiter le mystère de Dieu et de son œuvre à notre égard, à ce que nous en comprenons ou à ce que nous en saisissons. Nous sommes perpétuellement et jusqu'en notre éternité dépassés par l'œuvre que Dieu accomplit. Et voilà pourquoi, en même temps que l'esprit de foi, nous devons demander un renouvellement dans l'esprit d'adoration face au mystère qui nous est communiqué. Il faut vraiment avoir un cœur de pauvre pour accueillir et donc pour bénéficier d'une pareille merveille. C'est le cas du centurion. Il a la foi, c'est-à-dire qu'il ne met aucune limite à la puissance de Dieu et à l'œuvre du Christ dans sa propre vie et dans celle de son serviteur pour qui il implore la guérison. Il ne fait que compter sur Dieu seul. Tout le reste, y compris les biens spirituels parce qu'ils sont créés, ne peuvent sur cette terre que nous décevoir. Seul Dieu mérite l'hommage de notre volonté et de notre intelligence, de notre liberté et de notre amour. Et nous sommes sur terre pour nous consacrer totalement et sans retour à sa gloire, gloire qui est seule capable de contenter les désirs infinis de notre cœur. Désir qu'il a lui-même créé en nous par sa grâce, et ce, dès le premier instant de notre apparition sur terre. La foi, mes bien chers frères, est donc tout à la fois notre trésor, le plus grand don que Dieu nous ait fait, et notre mission. Nous avons à accueillir sans cesse celui qui vient au-devant de nous pour nous offrir sa présence, sa grâce, sa vie et son pardon. Il nous est alors demandé de reconnaître qui il est vraiment et surtout de ne point mettre de limites ou d'obstacles à son action divine en nous. En effet, il ne sert à rien de l'accueillir dans la communion eucharistique si nous ne cherchons pas ensuite à être fidèles à toutes ses inspirations et à prendre du temps pour être plus attentifs à sa présence, source de paix et de joie dans nos existences, par ailleurs bien agitées et dispersées. Et c'est justement pour être fidèles à cette présence et pour coopérer à son action en nous que nous devons pratiquer sans nous lasser la charité. Cette charité qui ne vient pas de nous, ce n'est point notre seule générosité naturelle. Cette charité nous est inspirée par le Sauveur lui-même. C'est ainsi que nous pourrons vraiment suivre les consignes de saint Paul. Notre propre sagesse, là encore, est limitée. Et bien souvent, nous sommes plutôt inspirés par notre désir de n'être point dérangés et de mener une petite vie bien tranquille, à l'abri des angoisses et des souffrances. Mais nous avons reçu en nous, depuis le jour de notre baptême et de notre confirmation, la sagesse même de Dieu, qui nous pousse à n'avoir le souci que du bien, quelles qu'en soient les conséquences pour nous et pour ceux qui nous entourent. C'est encore la foi qui nous fera garder la mesure lorsqu'on manquera de justice à notre égard. Le jugement, en effet, appartient à Dieu et tout l'Évangile nous invite à pratiquer la mesure et la miséricorde, la patience et la bonté. C'est ainsi que nous nous laissons mener par l'Esprit même de notre Seigneur Jésus-Christ sur le difficile mais vivifiant chemin du pardon et de la réconciliation. Au soir de notre vie, en effet, que restera-t-il de nos vieilles querelles? Combien futiles nous paraîtront nos luttes et nos combats pour un peu plus de pouvoir, pour la reconnaissance de nos droits, pour quelques biens matériels qui de toute façon ne nous suivront pas dans la tombe et qui, au mieux, permettront à l'État de combler une part infime de ses colossaux déficits. En revanche, nous serons heureux de nous être montrés miséricordieux à l'école du Christ qui nous a laissé comme seul trésor sur terre sa parole, son exemple et sa grâce, c'est-à-dire la capacité qu'il nous offre, qu'il nous communique d'agir comme lui. Alors, en étant des hommes de foi, d'amour et de réconciliation, nous inspirant du modèle de la très sainte Vierge Marie, nous appuyant aussi sur son intercession toute puissante, nous serons de ceux dont le Christ pourra dire « Va, qu'il te soit fait selon ta parole. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.